Chapitre 18. Midi, roi des épouvantes. Un peu plus tard, je me trouvais dans la salle basse de la Louve, en tête à tête avec Mistress Edith. J'essayais de la rassurer en la voyant impatiente et inquiète. Mais elle passa ses mains sur ses yeux hagards, et ses lèvres tremblantes laissèrent échapper l'aveu de sa fièvre. « J'ai peur, » dit-elle. Je lui demandai de quoi elle avait peur, et elle me répondit « Vous n'avez pas peur, vous ?» Alors je gardai le silence. « C'est vrai, j'avais peur, moi aussi. » Elle dit encore « Vous ne sentez pas qu'il se passe quelque chose ?»« Où ça ? Mais où ça, où ça, autour de nous ?» Elle haussa les épaules. « Oh, je suis toute seule, et j'ai peur. » Elle se dirigea vers la porte. « Où allez-vous ? » ?»« Oh, je vais chercher quelqu'un, car je ne veux pas rester toute seule, toute seule. » »« Et qui allez-vous chercher ?»« Le prince Galitch. » »« Oh, votre Fyodor Fyodorovitch ! » m'écriai-je. « Mais qu'en avez-vous besoin ? Est-ce que je ne suis point là ?» Son inquiétude, malheureusement, grandissait au fur et à mesure que je faisais tout mon possible pour la faire disparaître, et je n'eus point de peine à comprendre qu'elle lui venait surtout du doute affreux qui était entré dans son âme au sujet de la personnalité de son oncle vieux Bob. Elle me dit « Sortons !» et elle m'entraîna hors de la Louve. On approchait alors de l'heure de midi et toute la baille resplendissait dans un embrasement embaumé. N'ayant point sur nous nos lunettes noires, nous dûmes mettre nos mains devant nos yeux pour leur cacher la couleur trop éclatante des fleurs. Mais les géraniums géants continuèrent de saigner dans nos prunelles blessées. Quand nous fûmes un peu remis de cet éblouissement, nous nous avançâmes sur le sol calciné, nous marchâmes en nous tenant par la main sur le sable brûlant. Mais nos mains étaient encore plus brûlantes que tout ce qui nous touchait, que toute la flamme qui nous enveloppait. Nous regardions à nos pieds pour ne pas apercevoir le miroir infini des eaux et aussi peut-être pour ne rien deviner de ce qui se passait dans la profondeur de la lumière. Mistress Edith me répétait « J'ai peur !» Et moi aussi j'avais peur. Si bien préparé par les mystères de la nuit, peur de ce grand silence écrasant et lumineux de midi. La clarté dans laquelle on sait qu'il se passe quelque chose que l'on ne voit pas est plus redoutable que les ténèbres. Midi, mais tout repose et tout vit, tout se tait et tout bruit. Écoutez votre oreille. Elle résonne comme une conque marine de sons plus mystérieux que ceux qui s'élèvent de la terre quand monte le soir. Fermez vos paupières et regardez dans vos yeux. Vous y trouverez une foule de visions argentées plus troublantes que les fantômes de la nuit. Je regardais Mistress Edith. La sueur sur son front pâle coulait en ruisseaux glacés. Je me mis à trembler comme elle, car je savais, hélas, que je ne pouvais rien pour elle, et que ce qui devait s'accomplir s'accomplissait autour de nous sans que nous puissions rien arrêter ni prévoir. Elle m'entraînait maintenant vers la poterne qui ouvre sur la cour du Téméraire. La voûte de cette poterne faisait un arc noir dans la lumière, et à l'extrémité de ce frais tunnel, nous apercevions, tournés vers nous, Rouletabille et M. Darzac, debout sur le seuil de la cour du Téméraire, comme deux statues blanches. Rouletabille avait à la main la canne d'Arthur Rance. Je ne saurais dire pourquoi ce détail m'inquiéta. Du bout de sa canne, il montrait à Robert Darzac quelque chose que nous ne voyions pas au sommet de la voûte, et puis il nous désigna nous-mêmes du bout de sa canne. Nous n'entendions point ce qu'il disait. Il se parlait en remuant à peine les lèvres comme deux complices qui ont un secret. Mistress Edith s'arrêta, mais Rouletabille lui fit signe d'avancer encore, et il répéta le signe avec sa canne. « Oh, fit-elle, qu'est-ce qu'il me veut encore ? Ma foi, monsieur Sinclair, j'ai trop peur. Oh, je vais tout dire à mon oncle, vieux Bob, et nous verrons bien ce qui arrivera. » Nous avions pénétré sous la douve, et les autres nous regardaient venir sans faire un pas au-devant de nous. Leur immobilité était étonnante, et je leur dis d'une voix qui sonna étrangement à mes oreilles sous cette voûte, « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Alors, comme nous étions arrivés à côté d'eux sur le seuil de la cour du Téméraire, ils nous firent tourner le dos à cette cour pour que nous puissions voir ce qu'ils regardaient. C'était, au sommet de l'arc, un écusson, le blason de la Mortola, barré du rambel de la branche cadette. Cet écusson avait été sculpté dans une pierre maintenant branlante et qui manquait de choir sur la tête des passants. Rouletabille avait sans doute aperçu ce blason suspendu si dangereusement sur nos têtes, et il demandait à Mistress Edith si elle ne voyait point d'inconvénient à le faire disparaître, quitte à le remettre en place ensuite plus solidement. « Je suis sûr, dit-il, que si l'on touchait à cette pierre du bout de sa canne, elle tomberait. » Et il passa sa canne à Mistress Edith. « Vous êtes plus grande que moi, dit-il, essayez vous-même. » Mais nous essayions en vain les uns et les autres d'atteindre la pierre. Elle était trop haut placée et j'étais en train de me demander à quoi rimait ce singulier exercice quand tout à coup dans mon dos retentit le cri de la mort. Nous nous retournâmes d'un seul mouvement en poussant tous les trois une exclamation d'horreur. Ah, ce cri! Ce cri de la mort qui passait dans le soleil de midi après avoir traversé nos nuits. Mais quand donc cesserait-il? Quand donc l'affreuse clameur que j'entendis retentir pour la première fois dans les nuits du Glandier aura-t-elle fini de nous annoncer qu'il y a autour de nous une victime nouvelle? Que l'un de nous vient d'être frappé par le crime subitement et sournoisement et mystérieusement comme par la peste? Certes, la marge de l'épidémie est moins invisible que cette main qui tue. Et nous sommes là, tous quatre, frissonnants, les yeux grands d'épouvante, interrogeant la profondeur de la lumière toute vibrante encore du cri de la mort. Mais qui donc est mort? Ou qui donc va mourir? Quelle bouche expirante laisse maintenant échapper ce gémissement suprême? Comment nous diriger dans la lumière? On dirait que c'est la clarté du jour elle-même qui se plaint et soupire. Le plus effrayé est Rouletabille. Je l'ai vu dans les circonstances les plus inattendues garder un sang-froid au-dessus des forces humaines. Je l'ai vu, à cet appel du cri de la mort, se ruer dans le danger obscur et se jeter comme un sauveur héroïque dans la mer des ténèbres. Et pourquoi aujourd'hui tremble-t-il ainsi dans la splendeur du jour? Le voilà devant nous, pusillanime comme un enfant qu'il est, lui qui prétendait agir comme le maître de l'heure. Il n'avait donc point prévu cette minute-là, cette minute où quelqu'un expire dans la lumière de midi. Matt Tony, qui passait à ce moment dans la baille et qui a entendu lui aussi, est accouru. Un geste de Rouletabille le cloue sur place, sous la poterne, en immuable sentinelle. Et le jeune homme, maintenant, s'avance vers la plainte, ou plutôt marche vers le centre de la plainte, car la place nous entoure, fait des cercles autour de nous dans l'espace embrasé. Et nous allons derrière lui, retenant notre respiration et les bras étendus, comme on fait comme quand on va à tâtons dans le noir et que l'on craint de se heurter à quelque chose que l'on ne voit pas. Ah, nous approchons du spasme, et quand nous avons dépassé l'ombre de l'eucalyptus, nous trouvons le spasme au bout de l'ombre. Il secoue un corps à l'agonie. Ce corps, nous l'avons reconnu, c'est Bernier qui râle, qui essaye de se soulever, qui n'y parvient pas, qui étouffe, Bernier dont la poitrine laisse échapper un flot de sang, Bernier sur qui nous nous penchons et qui, avant de mourir, a encore la force de nous jeter ces deux mots, Frédéric Larsan. Et sa tête retombe. Frédéric Larsan, Frédéric Larsan, lui partout et nulle part. Toujours lui, nulle part. Voilà encore sa marque. Un cadavre et personne raisonnablement autour de ce cadavre. Car la seule issue de ces lieux où on en a assassiné, c'est cette poterne dont nous nous tenions tous les quatre. Et nous nous sommes retournés d'un seul mouvement, tous les quatre, aussitôt le cri de la mort, si vite que nous aurions dû voir le geste de la mort. Et nous n'avons rien vu que de la lumière. Nous pénétrons, mus, il me semble, par le même sentiment dans la tour carrée dont la porte était restée ouverte. Nous entrons sans hésitation dans les appartements du vieux Bob, dans le salon vide. Nous ouvrons la porte de la chambre. Le vieux Bob était tranquillement étendu sur son lit, avec son chapeau de forme sur la tête, et près de lui veille une femme, la mère Bernier. En vérité, comme ils sont calmes, mais la femme du malheureux a vu nos figures et elle jette un cri d'effroi dans le pressentiment immédiat de quelque catastrophe. Elle n'a rien entendu, elle ne sait rien, mais elle veut sortir, elle veut voir, elle veut savoir, on ne sait quoi. Nous tentons de la retenir. C'est en vain, elle sort de la tour, elle aperçoit le cadavre. Et c'est elle maintenant qui gémit atrocement dans l'ardeur terrible de midi sur le cadavre qui saigne. Nous arrachons la chemise de l'homme étendu là et nous découvrons une plaie au-dessous du cœur. Rouletabille se relève avec cet air que je lui ai connu quand il venait au glandier d'examiner la plaie du cadavre incroyable. « On dirait, fit-il, que c'est le même coup de couteau, c'est la même mesure, mais où est le couteau ?» Et nous cherchons le couteau partout sans le retrouver. L'homme qui a frappé l'aura emporté. Mais où est l'homme? Quel homme? Si nous ne savons rien, Bernier, lui, a su avant de mourir, et il est peut-être mort de ce qu'il a su. Frédéric Larsan, nous répétons en tremblant les deux mots du mort. Tout à coup, sur le seuil de la poterne, nous voyons apparaître le prince Galitch, un journal à la main. Le prince Galitch vient à nous en lisant le journal. Il a un air goguenard. Mais Mistress Edith court à lui, lui arrache le journal des mains, lui montre le cadavre et lui dit « Allez, voilà un homme que l'on vient d'assassiner. Allez chercher la police. » Le prince Galitch regarde le cadavre, nous regarde, ne prononce pas un mot et s'éveille en toute hâte. Il va chercher la police. La mère Bernier continue à pousser les gémissements. Rouletabille s'assit sur le puits. Il paraît avoir perdu toutes ses forces. Il dit à mi-voix à Mistress Edith, « Que la police vienne donc, madame, c'est vous qui l'aurez voulu. » Mais Mistress Edith le foudroie d'un éclair de ses yeux noirs. « Et je sais ce qu'elle pense. Elle pense qu'elle est Rouletabille qui a pu un instant la faire douter du vieux Bob. Pendant qu'on assassinait Bernier, est-ce que le vieux Bob n'était pas dans sa chambre, veillé par la mère Bernier elle-même ?» Rouletabille, qui vient d'examiner avec lassitude la fermeture du puits, fermeture restée intacte, s'allonge sur la margelle de ce puits, comme sur un lit où il voudrait enfin goûter quelque repos, et il dit encore plus bas, « Mais qu'est-ce que vous lui direz à la police ?» Tout. Mistress Edith a prononcé ce mot-là, les dents serrées rageusement. Rouletabille secoue la tête désespérément, et puis il ferme les yeux. Il me paraît écrasé, vaincu. Monsieur Robert Darzac vient toucher Rouletabille à l'épaule. Monsieur Robert Darzac veut fouiller la tour carrée, la tour du Téméraire, le château neuf, toutes les dépendances de cette cour dont personne n'a pu s'échapper et où logiquement l'assassin doit se trouver encore. Le reporter tristement l'en dissuade. Est-ce que nous cherchons quelque chose, Rouletabille et moi? Est-ce que nous avons cherché au Glandier, après le phénomène de la dissociation de la matière, l'homme qui a disparu de la galerie inexplicable? Non, non. Je sais maintenant qu'il ne faut plus chercher Larsan avec ses yeux. Un homme vient d'être tué derrière nous. Nous l'entendons crier sous le coup qui le frappe. Nous nous retournons et nous ne voyons rien que de la lumière. Pour voir, il faut fermer les yeux, comme Rouletabille fait en ce moment. Mais justement, ne voilà-t-il pas qu'il les rouvre? Une énergie nouvelle le redresse. Il est debout. Il lève vers le ciel son poing fermé. « Mais ce n'est pas possible !» s'écria-t-il. « Où il n'y a plus de bon bout de la raison !» Et il se jette par terre et le revoilà à quatre pattes, le nez sur le sol, flairant chaque caillou, tournant autour du cadavre de la mère Bernier qu'on a tenté en vain d'éloigner du corps de son mari, tournant autour du puits, autour de chacun de nous. Ah, c'est le cas de le dire. Le revoilà tel qu'un porc cherchant sa nourriture dans la fange, et nous sommes restés à le regarder curieusement, bêtement, sinistrement. À un moment, il s'est relevé, a pris un peu de poussière et l'a jeté en l'air avec un cri de triomphe, comme s'il allait faire naître de cette cendre l'image introuvable de Larsan. Quelle victoire nouvelle le jeune homme vient-il de remporter sur le mystère ? Qui lui fait à l'instant le regard si assuré ? Qui lui a rendu le son de sa voix ? Oui, le voilà revenu à l'ordinaire diapason quand il dit à M. Robert Darzac : « Rassurez-vous, monsieur, rien n'est changé. » Et il tournait vers Mistress Edith. « Nous n'avons plus, madame, qu'à attendre la police. J'espère qu'elle ne tardera pas. » La malheureuse tressaille. Cet enfant de nouveau lui fait peur. Ah oui, qu'elle vienne et qu'elle se charge de tout. Qu'elle pense pour nous. Tant pis, tant pis. Quoi qu'il arrive, fait Mrs. Edith en me prenant le bras. Et soudain, nous, sous la poterne, nous voyons arriver le père Jacques, suivi de trois gendarmes. C'est le brigadier de la Mortola et deux de ses hommes qui, avertis par le prince Galitch, accourent sur le lieu du crime. Les gendarmes, ils disent qu'il y a eu un crime, s'exclame le père Jacques qui ne sait rien encore. Du calme, père Jacques, lui crie Rouletabille. Et quand le portier essoufflé se trouve auprès du reporter, celui-ci lui dit à voix basse, « Rien n'est changé, père Jacques. » Mais le père Jacques a vu le cadavre de Bernier. « Rien qu'un cadavre de plus, soupire-t-il. C'est l'arçon. »« Non, c'est la fatalité, réplique Rouletabille. » L'arçon, la fatalité, c'est tout un. Mais que signifie ce « rien n'est changé » le Rouletabille, sinon que, autour de nous, malgré le cadavre incidentel de Bernier, tout continue de ce que nous redoutons, de ce dont nous frissonnons, mais ce c'est dit et moi, et que nous ne savons pas. Les gendarmes sont affairés, baragouinent autour un jardin incompréhensible. Le brigadier nous annonce qu'on a téléphoné à deux pas de là, à l'auberge Garibaldi, où déjeune justement le délégato, ou commissaire spécial de la gare de Vintimille. Celui-ci va pouvoir commencer l'enquête, que continuera le juge d'instruction également averti. Et le délégato arrive. Il est enchanté, quoiqu'il n'ait point pris le temps de finir le déjeuner. Un crime, un vrai crime, dans le château d'Hercule. Mais il rayonne, ses yeux brillent. Il est déjà tout affairé, tout important. Il ordonne au brigadier de mettre un de ses hommes à la porte du château avec la consigne de ne laisser sortir personne. Et puis il s'agenouille auprès du cadavre. Un gendarme entraîne la mère Bernier, qui gémit plus fort que jamais, dans la tour carrée. Le délégato examine la plaie. Il dit en très bon français, « Voilà un fameux coup de couteau !» Cet homme est enchanté. S'il tenait l'assassin sous la main, certes, il lui ferait ses compliments. Il nous regarde, il nous dévisage, il cherche peut-être parmi nous l'auteur du crime pour lui signifier toute son admiration. Il se relève. Et comment cela est-il arrivé ? Fait-il, encourageant et goûtant déjà au plaisir d'avoir une bonne histoire bien criminelle. « C'est incroyable, ajouta-t-il, incroyable. Depuis 5 ans que je suis délégato, on n'a assassiné personne. Monsieur le juge d'instruction, ici il s'arrête, mais nous finissons la phrase, monsieur le juge d'instruction va être bien content. » Il brosse de la main la poussière blanche qui couvre ses genoux, il s'éponge le front, il répète « Mais c'est incroyable !» avec un accent du midi qui double son allégresse. Mais il reconnaît dans un nouveau personnage qui entre dans la cour, un docteur de menton qui arrive justement pour continuer ses soins au vieux Bob. « Ah, docteur, vous arrivez bien. Examinez-moi cette blessure-là et dites-moi ce que vous pensez d'un pareil coup de couteau. Surtout, autant que possible, ne changez pas le cadavre de place avant l'arrivée de monsieur le juge d'instruction. » Le docteur sonde la plaie et nous donne tous les détails techniques que nous pouvions désirer. Il n'y a point de doute, c'est là le beau coup de couteau qui pénètre le bas en haut dans la région cardiaque et dont la pointe a déchiré certainement un ventricule. Pendant ce colloque entre le délégato et le docteur, Rouletabille n'a point cessé de regarder Mistress Edith, qui a pris décidément mon bras, cherchant auprès de moi un refuge. Ses yeux fuient les yeux de Rouletabille, qui l'hypnotise, qui lui ordonne de se taire. Or, je sais qu'elle est toute tremblante de la volonté de parler. Sur la prière du délégato, nous sommes entrés tous dans la tour carrée. Nous nous sommes installés dans le salon du vieux Bob, où va commencer l'enquête et où nous racontons chacun à tour de rôle ce que nous avons vu et entendu. La mère Bernier est interrogée la première, mais on n'en tire rien, elle déclare ne rien savoir. Elle était enfermée dans la chambre du vieux Bob, veillant le blessé, quand nous sommes entrés comme des fous. Elle était là depuis plus d'une heure, ayant laissé son mari dans la loge de la tour carrée, en train de travailler à tresser une corde. Chose curieuse, je m'intéresse en ce moment moins à ce qui se passe sous mes yeux et à ce qui se dit qu'à ce que je ne vois pas et que j'attends. Mistress Edith va-t-elle parler? Elle regarde obstinément par la fenêtre ouverte. Un gendarme est resté auprès de ce cadavre sur la figure duquel on a posé un mouchoir. Mistress Edith, comme moi, ne prête qu'une médiocre attention à ce qui se passe dans le salon devant le délégato. Son regard continue à faire le tour du cadavre. Les exclamations du délégato nous font mal aux oreilles. Au fur et à mesure que nous nous expliquons, l'étonnement du commissaire italien grandit dans des proportions inquiétantes. Et il trouve naturellement le crime de plus en plus incroyable. Il est sur le point de le trouver impossible quand c'est le tour de Mistress Edith d'être interrogée. On l'interroge. Elle a déjà la bouche ouverte pour répondre quand on entend la voix tranquille de Rouletabille. Regardez au bout de l'ombre de l'eucalyptus. « Qu'est-ce qu'il y a au bout de l'ombre de l'eucalyptus ?» demande le délégato. « L'arme du crime, » réplique Rouletabille. Il saute par la fenêtre dans la cour et ramasse parmi d'autres cailloux ensanglantés un caillou brillant et aigu. Il le brandit à nos yeux. Nous le reconnaissons. C'est le plus vieux grattoir de l'humanité. Chapitre 19. Rouletabille fait fermer les portes de fer. L'arme du crime appartenait au prince Galitch, mais il ne faisait de doute pour personne que celle-ci lui avait été volée par le vieux Bob, et nous ne pouvions oublier qu'avant d'expirer, Bernier avait accusé Larsan d'être son assassin. Jamais l'image du vieux Bob et celle de Larsan ne s'étaient encore si bien mêlées dans nos esprits inquiets que depuis que Rouletabille avait ramassé dans le sang de Bernier le plus vieux grattoir de l'humanité. Mistress Edith avait compris immédiatement que le sort du vieux Bob était désormais entre les mains de Rouletabille. Celui-ci n'avait que quelques mots à dire au délégato relativement aux singuliers incidents qui avaient accompagné la chute du vieux Bob dans la grotte de Roméo et Juliette, à énumérer les raisons que l'on avait de craindre que le vieux Bob et Larsan fussent le même personnage, à répéter enfin l'accusation de la dernière victime de Larsan pour que tous les soupçons de la justice se portassent sur la tête à perruque du géologue. Or, Mistress Edith, qui n'avait point cessé de croire, tout dans le fond de son âme de nièce, que le vieux Bob était raison, était bien son oncle, mais s'imaginant comprendre tout à coup, grâce au grattoir meurtrier, que l'invisible Larsan accumulait autour du vieux Bob tous les éléments de sa perte, dans le dessein sans doute de lui faire porter le châtiment de ses crimes, et aussi le poids dangereux de sa personnalité, Mistress Edith trembla pour le vieux Bob, pour elle-même. Elle trembla d'épouvante au centre de cette trame, comme un insecte au milieu de la toile où il vient de se prendre, toile mystérieuse tissée par Larsan, aux fils invisibles accrochés au vieux mur du château d'Hercule. Elle eut la sensation que si elle faisait un mouvement, un mouvement des lèvres. Ils étaient perdus tous deux, et que l'immonde bête de proie n'attendait que ce mouvement-là pour les dévorer. Alors, elle, qui avait décidé de parler, se tut, et ce fut à son tour de redouter que Rouletabille parlât. Elle me raconta plus tard l'état de son esprit à ce moment du drame, et elle m'avoua qu'elle eut alors la terreur de Larsan à un point que nous n'avions peut-être nous-mêmes jamais ressenti. Ce loup-garou dont elle avait entendu parler avec un effroi qui l'avait d'abord fait sourire, l'avait ensuite intéressé lors de l'épisode de la Chambre jaune, à cause de l'impossibilité où la justice avait été d'expliquer sa sortie. Puis il l'avait passionné lorsqu'elle avait appris le drame de la tour carrée, à cause de l'impossibilité où l'on était d'expliquer son entrée. Mais là, dans le soleil de midi, Larsan avait tué, sous leurs yeux, dans un espace où il n'y avait qu'elle, Robert Darzac, Rouletabille, Sinclair, le vieux Bob et la mère Bernier, les uns et les autres, assez loin du cadavre pour qu'ils n'eussent pu avoir frappé Bernier. Et Bernier avait accusé Larsan. Et où Larsan? Dans le corps de qui? Pour raisonner comme je lui avais enseigné moi-même en lui racontant la galerie inexplicable. Elle était sous la voûte entre Darzac et moi, Rouletabille se tenant devant nous, quand le cri de la mort avait retenti au bout de l'ombre de l'eucalyptus, c'est-à-dire à moins de 7 mètres de là. Quant au vieux Bob et à la mère Bernier, ils ne s'étaient point quittés, celle-ci surveillant celui-là. Si elle les écartait de son argument, il ne restait plus personne pour tuer Bernier. Non seulement, cette fois, on ignorait comment il était parti, comment il était arrivé, mais encore comment il avait été présent. Là, elle comprit qu'il y avait des moments où, en songeant à Larsan, on pouvait trembler jusque dans les moelles. Rien, rien autour de ce cadavre que ce couteau de pierre qui avait été volé par le vieux Bob. C'était affreux et c'était suffisant pour nous permettre de tout penser, de tout imaginer. Elle lisait la certitude de cette conviction dans les yeux et dans l'attitude de Rouletabille et de M. Robert Darzac. Elle comprit cependant au premier mot de Rouletabille que celui-ci n'avait présentement d'autre but que de sauver le vieux Bob des soupçons de la justice. Rouletabille se trouvait alors entre le délégato et le juge d'instruction qui venait d'arriver, et il raisonnait, le plus vieux grattoir de l'humanité à la main. Il semblait définitivement établi qu'il ne pouvait y avoir d'autres coupables autour du mort que les vivants dont j'ai fait quelques lignes plus haut l'énumération, quand Rouletabille prouva avec une rapidité de logique qui combla d'aise le juge d'instruction et désespéra le délégato, que le véritable coupable, le seul coupable, était le mort lui-même. Les 4 vivants de la poterne et les 2 vivants de la chambre du vieux Bob, s'étant surveillés les uns les autres et ne s'étant pas perdus de vue, pendant qu'on tuait Bernier à quelques pas de là, il devenait nécessaire que ce « on » fût Bernier lui-même. À quoi le juge d'instruction, très intéressé, répliqua en nous demandant si quelqu'un de nous soupçonnait les raisons d'un suicide probable de Bernier. À quoi Rouletabille répondit que pour mourir, on pouvait se passer du crime et du suicide, et que l'accident suffisait pour cela. L'arme du crime, comme il appelait par ironie le plus vieux grattoir du monde, attestait par sa seule présence l'accident. Rouletabille ne voyait point un assassin préméditant son forfait avec le secours de cette vieille pierre. Encore moins eût-on compris que Bernier, s'il avait décidé son suicide, n'eut point trouvé d'autre arme pour son trépas que le couteau des troglodytes. Que si au contraire cette pierre, qui avait pu attirer son attention par sa forme étrange, avait été ramassée par le père Bernier, que si elle s'était trouvée dans sa main au moment d'une chute, le drame alors s'expliquait, et combien simplement. Le père Bernier était tombé si malheureusement sur ce caillou effroyablement triangulaire qu'il s'en était percé le cœur. Sur quoi le médecin fut appelé à nouveau, la plaie redécouverte et confrontée avec l'objet fatal, d'où une conclusion scientifique s'imposa, celle de la blessure faite par l'objet. De là à l'accident, après l'argumentation de Rouletabille, il n'y avait qu'un pas. Les juges mirent 6 heures à le franchir. 6 heures pendant lesquelles ils nous interrogèrent sans lassitude et sans résultat. Quant à Mistress Edith et votre serviteur, après quelques tracas inutiles et vaines inquisitions, pendant que les médecins soignaient le vieux Bob, nous nous assîmes dans le salon qui précédait sa chambre et d'où venaient de partir les magistrats. La porte de ce salon qui donnait sur le couloir de la tour carrée était restée ouverte. Par là, nous entendions les gémissements de la mère Bernier qui veillait le corps de son mari que l'on avait transporté dans la loge. Entre ce cadavre et ce blessé, aussi inexplicable ma foi l'un que l'autre, en dépit des efforts de Rouletabille, notre situation à Mistress Edith et à moi était, il faut l'avouer, des plus pénibles, et tout l'effroi de ce que nous avions vu se doublait dans le tréfonds de nous-mêmes de l'épouvante de ce qui nous restait à voir. Mistress Edith me saisit tout à coup la main. « Ne me quittez pas, ne me quittez pas, » fit-elle, « je n'ai plus que vous. Je ne sais où est le prince Galitch et je n'ai point de nouvelles de mon mari. C'est cela qui est horrible. Il m'a laissé un mot me disant qu'il était allé à la recherche de Tullio. Monsieur Rance ne sait même pas à l'heure actuelle que l'on a assassiné Bernier. A-t-il vu le bourreau de la mer ? C'est du bourreau de la mer, c'est de Tullio seulement que j'attends maintenant la vérité. Et pas une dépêche, mais c'est atroce. » À partir de cette minute où elle me prit la main avec tant de confiance et où elle la garda un instant dans les siennes, je fus à Mistress Edith de toute mon âme et je ne lui cachai point qu'elle pouvait compter sur mon entier dévouement. Nous échangeâmes ces quelques propos inoubliables à voix basse, pendant que passaient et repassaient dans la cour les ombres rapides des gens de justice, tantôt précédé, tantôt suivi de Rouletabille et de M. Darzac. Rouletabille ne manquait point de jeter un coup d'œil de notre côté chaque fois qu'il en avait l'occasion. La fenêtre était restée ouverte. « Oh, il nous surveille, » dit Mistress Edith. « À merveille, oh, il est probable que nous le gênons, lui et M. Darzac, en restant ici. » « Mais c'est une place que nous ne quitterons point, quoi qu'il arrive, n'est-ce pas, Monsieur Sinclair ?» Il faut être reconnaissant à Rouletabille, osais-je dire, de son intervention et de son silence relativement au plus vieux grattoir de l'humanité. Si les juges apprenaient que ce poignard de pierre appartient à votre vieil oncle Bob, qui pourrait prévoir où tout cela s'arrêterait ? S'il savait également que Bernier, en bourrant, a accusé Larsan, l'histoire de l'accident deviendrait plus difficile. Et j'appuyais sur ces derniers mots. « Oh !» répliqua-t-elle avec violence. « Votre ami a autant de bonnes raisons de se taire que moi. Et je ne redoute qu'une chose, voyez-vous. Oui, oui, je ne redoute qu'une chose. Quoi, quoi ?» Elle s'était relevée fébrile. « Je redoute qu'il n'ait sauvé mon oncle de la justice que pour mieux le perdre. Oh, pouvez-vous bien croire cela ? Interrogeai-je sans conviction. Et j'ai bien cru lire cela tout à l'heure, dans les yeux de vos amis. Si j'étais sûr de ne point m'être trompé, j'aimerais encore mieux avoir l'affaire à la justice. Elle se calma un peu, parut rejeter une stupide hypothèse, et puis me dit « Enfin, il faut toujours être prêt à tout, et je saurai le défendre jusqu'à la mort. » Sur quoi elle me montra un petit revolver qu'elle cachait sous sa robe. « Oh ! S'écria-t-elle, pourquoi le prince Galitch n'est-il point là ?»« Encore ! M'exclamai-je avec colère. « Est-il vrai que vous soyez prêt à me défendre, moi ?» me demanda-t-elle en plongeant dans mes yeux son regard troublant. « J'y suis prêt, oui. Contre tout le monde ? Oui. Contre votre ami ? S'il le faut, » fis-je en soupirant, et je passai ma main sur mon front en sueur. « C'est bien, je vous crois, » dit-elle. « En ce cas, je vous laisse ici quelques minutes. » Vous surveillerez cette porte pour moi. » Et elle me montrait la porte derrière laquelle reposait le vieux Bob. Puis elle s'enfuit. Où allait-elle ? Elle me la voit plus tard. Elle courait à la recherche du prince Galitch. Ah, femme, femme ! Elle n'eut point plutôt disparu sous la poterne que je vis Rouletabille et M. Darzac entrer dans le salon. Ils avaient tout entendu. Rouletabille s'avança vers moi et ne me cacha point qu'il était au courant de ma trahison. « Oh, voilà un bien gros mot, fis-je, Rouletabille. Vous savez que je n'ai point l'habitude de trahir personne. Mistress Edith est réellement à plaindre et vous ne la peignez pas assez, mon ami. Et vous, vous la plaignez trop. » Je rougis jusqu'au bout des oreilles. J'étais prêt à quelque éclat, mais Rouletabille me coupa la parole d'un geste sec. « Je ne vous demande qu'une chose, qu'une seule, vous entendez ? C'est que quoi qu'il arrive, vous ne vous adressiez plus la parole à M. Darzac et à moi. » « Ce sera une chose facile, » répliquai-je sottement irrité, et je lui tournai le dos. Il me sembla qu'il eut alors un mouvement pour rattraper les mots de sa colère. Mais, dans ce moment même, les juges, sortant du château neuf, nous appelèrent. L'enquête était terminée. L'accident, à leurs yeux, après la déclaration du médecin, n'était plus douteux, et telle fut la conclusion qu'ils donnèrent à cette affaire. Ils quittaient donc le château. M. Darzac et Rouletabille sortirent pour les accompagner. Et comme j'étais resté accoudé à la fenêtre qui donnait sur la cour du Téméraire, assailli de mille sinistres pressentiments, et attendant avec une angoisse croissante le retour de Mistress Edith, cependant qu'à quelques pas de moi dans sa loge où elle avait allumé deux bougies mortuaires, la mère Bernier continuait à psalmodier en gémissant auprès du cadavre de son mari la prière des trépassés, j'entendis tout à coup passer dans l'air du soir, au-dessus de ma tête, comme un coup de gong formidable, quelque chose comme une clameur de bronze. Et je compris que c'était Rouletabille qui faisait fermer les portes de fer. Une minute ne s'était pas écoulée que je voyais accourir dans un effarement désordonné Mistress Edith qui se précipitait vers moi comme vers son seul refuge. Puis je vis apparaître M. Darzac, puis Rouletabille, qui avait à son bras la dame en noir.